essayer de rien casser. Et je voudrais tout d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur, vous dire la joie de continuer à vous apporter. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dois reculer. Voilà. Et continuer à apporter des enseignements sur la prière. Je vous rappelle que le thème général, c'est prier, ce n'est pas gagner, avec les deux écritures. Gagner au sens, c'est pas si simple, et gagner au sens, c'est pas à tous les coups qu'on gagne, que la prière arrange tout dans notre vie. Alors je vous ai parlé le premier soir, j'ai commencé à vous parler du thème « Prier, c'est dialoguer en vérité », dans lequel il faut considérer que, certes, la demande est importante, mais l'écoute aussi de ce que Dieu dit. Et puis, où j'ai essayé de vous montrer combien l'attitude de cœur, la vérité, l'authenticité est décisive en la matière. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas obligés de tout dire, de révéler toute notre intimité, mais au moins de penser ce que nous disons et que nous soyons justes dans nos paroles. La deuxième chose que j'ai essayé de vous rappeler, c'est que prier, c'est aussi renoncer aux attitudes païennes, parce qu'il y a des façons païennes de prier, comme de rabâcher sans arrêt les mêmes choses en s'imaginant que Dieu va nous exaucer à coups de parole. Et puis je vous ai aussi parlé de ne pas se tromper de combat, vous rappelant que l'essentiel du combat auquel nous sommes invités, c'est celui de la sanctification. Et que parfois on a eu tendance à décentrer la prière vers un seul aspect du combat spirituel, qui est celui de la lutte contre les esprits mauvais. Ce matin, j'aimerais aborder un troisième et dernier sujet qui va déboucher sur des recommandations pratiques. Prier, c'est ajouter le geste à la parole et garder les yeux ouverts sur le monde. Alors évidemment, je vais jouer un peu sur les mots, mais je pense que vous allez comprendre. Et je voudrais vous inviter, pour introduire cette réflexion, à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens. Si vous vous souvenez du petit chant, vous savez où c'est. Au chapitre 4. Où l'apôtre Paul dit ceci. Alors j'en affiche juste un extrait, chapitre 4, verset 2. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention apparaît ici dans ce texte. La prière n'est pas simplement un moment où nous demandons à Dieu quelque chose et où nous oublions ce que nous avons demandé, mais c'est une requête qui doit aussi être suivie d'une disposition à agir. Quand il est dit que la prière soutienne votre persévérance, eh bien, il ne suffit pas de prier pour être persévérant. Il faut aussi persévérer. Il faut obéir. Il faut tenir. Quand il dit « Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole », si Dieu crée ces occasions en réponse à la prière, mais que l'apôtre ne les saisit pas pour proclamer le secret de son plan, il n'y a que la moitié des choses qui sont faites. Et je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais j'ai eu le sentiment, pas très souvent, mais à l'un ou l'autre moment, d'avoir raté des occasions que Dieu avait préparées. Quand j'étais au GBU, je m'occupais, il y a très longtemps, d'un groupe biblique universitaire à Dijon, et j'ai vécu des choses tout à fait intéressantes, des étudiants qui se sont convertis, et dans ce zèle pour annoncer l'évangile, je me suis mis à penser à mes profs, avec quelques craintes, en me disant, mais eux aussi ont besoin du salut. Et puis j'ai hésité à franchir le pas. Et je me souviens très bien être rentré de vacances de Pâques et d'avoir vu sur le tableau de la classe, j'étais en BTS, une annonce « Votre professeur est décédé. Il s'est noyé dans les Landes. » Je ne sais pas si vous connaissez dans les Landes les baïnes, qui sont des courants qui se forment et qui sont assez dangereux. Et cet homme, qui était un Landais, était parti dans les Landes et il s'était noyé. Et j'ai été saisi par le sentiment que je n'avais pas pris le temps de lui parler. Il y a des occasions où, si nous n'agissons pas, alors Dieu fait son œuvre, hein. Il l'a fait quoi qu'il arrive, mais il l'a fait avec nous ou sans nous. Parfois, il l'a fait malgré nous, mais il voudrait tant nous utiliser. Et donc, ce à quoi je voudrais vous rendre attentif à partir de ce texte, comme illustration, c'est que la prière doit se combiner à l'action. Et je l'ai intitulé « Joindre les mains sans se croiser les bras ». Ce n'est pas de moi, c'est un adage que j'ai entendu, je ne sais pas de qui il est. Parce qu'il me semble que le combat dont je vous ai parlé hier ne se limite pas à la prière, il doit combiner l'action et la prière. Ou sinon, la prière, mes frères et sœurs, peut devenir une fuite. Une fuite très spirituelle, mais qui est une façon de refuser la réalité. Quand un frère ou une sœur vient vous dire sa détresse et que vous ne l'écoutez pas, que vous lui dites « Viens, on va prier !» Vous refusez d'écouter la réalité. Prenez le temps de l'écouter et proposez-lui la prière ensuite. C'est Spurgeon qui disait, je le mettrai après, c'est Spurgeon qui disait « Ne dépendez pas uniquement de la prière sans faire le moindre effort » dans un sermon intitulé « La clé d'or de la prière ». Et il raconte une anecdote qui me semble parlante. Dans une certaine école, une élève connaissait le Seigneur. C'était une enfant très gentille, confiante, simple de cœur. Tout naturellement, la grâce se développait chez elle, selon les tendances de sa nature. C'était elle qui savait toujours le mieux ses leçons. Une autre élève lui dit un jour: « Mais comment se fait-il que tu récites toujours si bien tes leçons ?»« Je prie Dieu de m'aider à les apprendre, » répondit-elle. « Bien, » fit l'autre, « alors je vais en faire autant. » Le lendemain matin, lorsqu'elle se leva en classe, elle ne savait rien. Et se voyant humiliée, se plaignit à l'autre. « J'ai demandé à Dieu de m'aider à apprendre ma leçon et je ne la sais pas. Pourquoi ?» À quoi sert de prier ? Et l'autre lui dit, mais as-tu vraiment essayé de l'apprendre ? Oh non, fut la réponse, je n'ai pas ouvert le livre. Ah, répliqua l'élève, j'ai demandé à Dieu de m'aider à apprendre la mienne, mais j'ai pris la peine de l'étudier. Et j'ai persévéré jusqu'à bien la savoir. Je l'ai facilement apprise parce que mon ardent désir exprimé à Dieu était « Aide-moi à m'appliquer, à essayer de faire mon devoir. » Et vous avez l'extrait là. J'ai demandé à Dieu de m'aider à apprendre ma leçon et je ne la sais pas. Pourquoi ? Mais as-tu vraiment essayé de l'apprendre ? Et ainsi la prière, qui n'est pas poursuivie par l'action, est parfois une fuite. Peut-être même un raccourci paresseux. Spurgeon conclut sur cette anecdote, il en va de même pour certaines personnes qui viennent aux réunions de prière, qui prient, mais qui croisent les bras et repartent avec l'espoir que Dieu va continuer à travailler. Et donc vous avez la couverture du livre dans lequel vous trouvez un certain nombre de sermons de Spurgeon sur la prière. Alors Spurgeon est passionnant, il est assez ampoulé, c'est-à-dire c'est un style parfois du 19e siècle, mais il y a des choses très fortes, très profondes. J'approuve en tout cas pleinement cette façon de voir et crois discerner une telle invitation du Seigneur quand il dit aux disciples « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Vous le connaissez ce texte. Savez-vous par quoi il est suivi ?
Matthieu 10.
Oui. Alors, ah oui, Matthieu 9 est suivi par Matthieu 10. Merci, monsieur le pasteur, pour votre discernement. Par l'envoi des disciples. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Alors, je ne sais pas vraiment si les disciples ont eu le temps de prier, mais en tout cas, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, la réponse à la prière, c'est vous. La réponse à la prière, c'est vous. Ce qui veut dire, mes amis, que prier est assez risqué. Parce que Dieu prend au sérieux le désir que nous exprimons et n'hésite pas à envoyer celui qui a demandé. William Carey, dont je vous ai déjà parlé, père des missions modernes, avait intégré cette réalité avec une formule qui est devenue célèbre. Attendez de grandes choses de Dieu. Ça, c'est la prière de la foi. Attendez de grandes choses de Dieu. Entreprenez de grandes choses pour Dieu. Ça, c'est l'action. La foi mise en action. Et l'on sait l'œuvre décisive qu'il a accomplie avec détermination aux Indes. Attendez de grandes choses de Dieu. Faites de grandes choses, ou entreprenez de grandes choses pour Dieu. Je m'inquiète, mes amis, de constater que nous sommes à cet égard souvent des chrétiens inconséquents. Et je voudrais vous partager deux situations qui viennent de mon expérience pastorale, mais qui sûrement vont trouver écho dans votre situation personnelle ou dans votre situation communautaire. La première, et j'ai souvent accompagné des églises dans ce domaine, c'est le changement pastoral en église. Combien de pasteurs et d'églises ont prié pour cette étape importante de leur existence, ont proclamé leur confiance dans la providence divine, et le moment venu, n'ont pas su mettre leur foi en action. Leur besoin de sécurité a été prédominant. J'ai entendu des pasteurs me dire « Ah, mais je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé le remplaçant indispensable. » J'ai entendu des communautés dire « Nous ne pouvons pas laisser partir notre pasteur. Nous avons trop besoin de lui. » Et puis j'en ai entendu d'autres dire « Mais nous ne trouverons jamais le berger dont nous avons besoin. » Et cette crispation, cette peur a été souvent paralysante. Je me demande comment Dieu peut bénir un tel décalage entre nos proclamations, nous te faisons confiance, et nos actions, ou notre manque d'action. La deuxième situation est liée au vécu du pardon au sein de nos églises. J'ai l'impression pénible, mais j'espère être détrompé, que le pardon est une dimension bien peu expérimentée dans les relations mutuelles. Nous sommes nés, chers amis, à la vie nouvelle par le pardon de Dieu expérimenté et reçu en Jésus-Christ. Nous nous savons graciés par lui. Mais aussi, nous savons que nous sommes toujours marqués par le péché. Et pourtant, nous faisons comme si la vie en communauté ne nécessitait pas l'exercice du pardon. Le fait de l'offrir et de le recevoir. Alors je me demande, mais est-ce que nous sommes tellement sanctifiés que nos relations sont en tout point sereines et harmonieuses ? C'est peut-être ça la réponse. Pas besoin de pardon puisque tout va bien. Non, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je ne le croirais quand même pas si vous me le disiez. Alors peut-être j'ai une autre explication sur le fait qu'on vive si peu le pardon dans l'Église. C'est peut-être la superficialité des relations au sein de nos Églises, où la moyenne hebdomadaire des rencontres entre membres doit varier entre 2h30 en région parisienne et 4h en province. Bon, est-il nécessaire de se pardonner ? On n'a même pas le temps de se blesser. Même en 2h30, à vrai dire, on y arrive. Et puis, vous savez, les blessures viennent parfois du fait que simplement, on n'a pas le temps. Pas le temps de communiquer. Donc, pas le temps de s'aimer vraiment. Alors, troisième solution, nos églises seraient-elles des lieux où l'on a tellement appris à se cacher la réalité, à enfouir dans nos mémoires personnelles et collectives les blessures reçues et les blessures infligées, les divisions vécues ou les divisions subies, que nous ne savons plus parler des choses qui fâchent. J'y crois, sans peine. Tant j'ai découvert dans les églises des histoires non réglées, des amertumes ressassées et même parfois des haines entretenues. J'ai eu l'impression parfois d'avoir, excusez-moi s'il y a des Corses parmi vous, mais avoir affaire à des Corses. C'est-à-dire, nos familles ne s'entendent pas, on ne sait plus pourquoi, mais on est ennemis, quoi qu'il arrive. Vous avez déjà lu Astérix chez les Corses ? Et pourtant, nous prions. Nous prions sans hésiter, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, sans scier, sans frémir, alors qu'il doit bien souvent résonner aux oreilles du Seigneur comme une provocation. Prier et ne pas agir. Demander le pardon sans l'offrir aux autres. Demander le pardon au Seigneur sans l'offrir aux autres. Intercéder pour l'envoi d'ouvriers en disant « mais moi je reste ici ». Supplier pour que l'œuvre de Dieu progresse dans le monde en refusant d'ouvrir son porte-monnaie, c'est être aveugle. C'est jouer aux disciples du Christ sans l'être vraiment. Dans ce domaine précis, et ici je voudrais arriver à une situation plus personnel. Dans ce domaine précis du pardon, j'ai bien souvent observé que les couples agissaient avec leurs blessures mutuelles comme ils le font avec leurs factures. Ils préfèrent souvent repousser le moment de les régler quand ils n'essayent pas de les mettre dans un tiroir. Vous savez, ces tiroirs ont fourre-tout et on essaye d'oublier ce qu'on y a mis jusqu'au jour où l'huissier frappe à la porte. Mes amis, prier, c'est joindre les mains Oui, mais sans se croiser les bras. Ou alors notre piété est factice. J'aimerais maintenant aborder un deuxième aspect pratique en vous disant que prier, c'est baisser la tête tout en ouvrant les yeux. Alors, je joue sur les mots. Je n'ai pas de prétention à vous dire qu'il y a une façon de se tenir pour prier. Mais vous savez que nous avons l'habitude, généralement, dans nos milieux, de fermer les yeux pour prier. Et c'est commode, ça permet de se concentrer. Ça permet peut-être aussi d'éviter de regarder tout ce qui se passe et d'être distrait. Vous savez toujours ce qui se passe avec les enfants à l'école du dimanche. Ferme les yeux. Madame, il n'a pas fermé les yeux. Mais comment le sais-tu? Toujours seul. Il me semble qu'une pratique lucide de la prière, telle que le Seigneur l'enseigne, consiste à garder les yeux ouverts sur le monde dans lequel nous vivons. Notre milieu évangélique a longtemps souffert d'une forme de myopie dans ce domaine, avec son incapacité à voir plus loin que la porte de l'Église. Ce ne sont pas pourtant les appuis bibliques qui manquent pour nous inviter à regarder le monde, à s'informer, à l'aimer même. Le prophète Jérémie a dû encourager de la part du Seigneur les déportés qui, vous le savez, vivaient dans l'attente du retour dans la terre promise, au point qu'ils se désintéressaient de la ville dans laquelle ils se trouvaient. Eh bien, l'Éternel leur a dit par Jérémie, « Mais recherchez la prospérité de la ville dans laquelle je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre paix ou sa prospérité dépendra de la vôtre. » Pouvons-nous rester indifférents? Pouvez-vous rester indifférent à Palaiso? À l'Île-de-France? Et au pays tout entier? Et Paul lui fait écho dans un autre texte, dans la première à Timothée, où il nous exhorte à prier pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Alors, très souvent, nous avons envie de mettre afin qu'ils se convertissent. Ce n'est pas ce que dit le texte. Ce n'est pas mauvais de prier pour la conversion des puissants. Mais ici, c'est afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu qui commande le respect. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour vous dire que cette prière prend un relief particulier dans une société qui s'éloigne de Dieu d'une façon de plus en plus marquée et dans laquelle la paix et la liberté, religieuse en tout cas, sont mises en cause. Là je vais faire une petite incursion avec le CNEF dans cette histoire. Nous sommes partenaires d'une organisation internationale au CNEF qui s'appelle Alliance Defending Freedom. Ce sont des juristes, des avocats, chrétiens, alors chrétiens au sens large du terme, catholiques, orthodoxes, protestants, qui se sont donnés pour mission de défendre partout où c'était nécessaire la liberté religieuse des chrétiens. Et ce que nous voyons maintenant se multiplier au niveau du contentieux en Occident, ce sont les procès faits par les associations LGBT dès que des chrétiens, pour une raison ou une autre, ne prêchent pas la tolérance la plus grande à leur égard. Je vous cite deux exemples qui sont actuellement en jugement aux États-Unis. Il y a un pâtissier chrétien, qui fait des gâteaux de mariage, et il se trouve qu'un couple gay est venu et non seulement a commandé un gâteau, mais a demandé à ce qu'il soit mis sur le gâteau « Vive le mariage gay ». Ce frère a répondu qu'il ne pouvait pas en conscience répondre à leur attente. Il se retrouve devant la justice. Et toute la question, c'est pourrons-nous rester libres de notre dans notre conscience. Je pense à une autre famille. Ils sont fermiers, alors je ne sais plus dans quel état. Et il se trouve qu'ils ont prononcé à l'occasion, une radio leur a demandé ce qu'ils pensaient du mariage pour tous. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça aux États-Unis. Ils ont dit ce qu'ils en pensaient, selon leur foi. Et ils ont découvert que une des villes dans les environs qui habituellement se fournissaient chez eux de leurs produits avait dénoncé les contrats pour cette seule raison. Et donc, ils sont aussi, eux, cette fois-ci en justice, simplement pour arriver à survivre. Hein ? Vous savez qu'il y a une tentative de la part de NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, de faire passer une loi disant très précisément qu'il serait désormais interdit à toute religion d'avoir des convictions au-dessus de la République. C'est catastrophique. Ça veut dire que la transcendance, c'est la République. Et c'est dénoncer en réalité le pacte sur lequel nos sociétés sont bâties, le pacte laïque, qui consiste à dire chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Nous n'interférons pas, dit l'État, dans vos convictions et dans votre organisation, pourvu que vous respectiez l'ordre public. Et de l'autre côté, les religions s'engagent à dire qu'elles n'interviennent pas dans les affaires de l'État. Puisque je vous rappelle qu'il y avait une collusion pendant très longtemps du pouvoir entre la religion catholique en France et l'État. Le problème, c'est que l'ordre public, c'est quoi ? Vous connaissez Torrent de Vie ? Petite association évangélique qui essaye d'accompagner des gens qui veulent se reconstruire sur le plan de l'identité sexuelle. Donc, parmi ces personnes, des homosexuels qui voudraient, par obéissance au Seigneur, mieux gérer leur inclination. Eh bien, ils ont été, alors ils ne sont plus sur le devant de la scène, sur le plan médiatique, mais ils ont été empêchés de tenir plusieurs séminaires pour trouble à l'ordre public. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, le lobby LGBT, sachant où se tenaient les séminaires, venait faire du barouf devant l'église. Eux n'y étaient pour rien. Juste pour dire que s'il y a une prière qui me semble particulièrement importante ces temps-ci, c'est celle-là. Nous ne sommes pas au bout de nos peines en la matière. Je referme cette parenthèse. La prière lucide, mes amis, doit faire place à l'intercession pour le monde. Et pas simplement par intérêt pour vivre dans la paix. Mais aussi, c'est ce que dit ce texte, qui continue, par imitation et expression de l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que dit ce texte, plus loin. Et à ce titre, je me réjouis de l'implication grandissante des églises évangéliques dans des actions en faveur de la justice et du secours des plus démunis. Nous ne pouvons pas croire en Dieu, l'aimer et superbement ignorer les drames qui se passent ici et là. Alors il y en a un qui est passé de mode, mais qui sévit toujours, le sida dans les pays du Sud. La résurgence de l'esclavage sous la forme du commerce sexuel des femmes et des enfants jusque dans nos rues en Occident. Vous le savez, ce qu'on appelle la traite des êtres humains. Est-ce que vous savez qu'il y a une association qui lutte contre cette traite, une association évangélique, portée par Opération Mobilisation, qui lutte contre ce fléau à Nantes? Vous avez déjà entendu parler? Marcel Georgel a eu ce travail à cœur, et sauf erreur de ma part, ce travail s'appelle Rahab, pour faire référence à cette prostituée qui est entré dans le peuple de Dieu. Et figurez-vous que Marcel Georgel, avec ses équipes, est tellement connu par les prostituées que quand la police arrête les prostituées, elle trouve toujours son numéro dans leur téléphone. Et avant qu'elles le connaissent lui, elles ont dit « Mais c'est un Mac, c'est quoi ce gars-là » Et ils l'ont appelé, et ils ont découvert que c'était un pasteur, et qu'en fait, il aidait ces femmes à sortir de ces réseaux mafieux, ces réseaux de proxénétisme, et désormais, il est invité par la police, comme l'un des grands connaisseurs de cette situation. Il y a des choses à faire. Est-ce que nous pouvons rester indifférents à l'indécente richesse de nos sociétés qui accaparent ? Pire, qui gaspillent des quantités faramineuses de ressources au détriment de populations tenues dans la pauvreté, la nudité, la faim. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour les trouver. Miché France, qu'on appelait autrefois le défi Miché, a toute sa place dans le ministère de nos églises. Le ministère prophétique qu'elles sont appelées à exercer avec courage et détermination. Et parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous croyons que la prière d'intercession tient une place déterminante dans son plan pour le monde. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière informée, une prière persévérante, une prière aimante pour tous les oubliés de la terre. Pouvons-nous, par exemple, chers amis, nous satisfaire de ce qui est dit et fait pour les banlieues en déshérence? Ne devons-nous pas, alors que nos hommes politiques de tous bords n'ont que de beaux discours à tenir, mais aucune espérance à donner aux jeunes des banlieues difficiles, ne devons-nous pas prendre le relais dans la prière et déjà réfléchir aux actions que nous pourrions mener pour les centaines de jeunes djihadistes qui reviennent et dont personne ne sait quoi faire parce que Dieu les aime? Mais il y a aussi des choses à faire pour les familles qui sont désarçonnées et pour tous ceux qui ont peur et qui voudraient bien régler le problème à la mitraillette. J'ai été auditionné en tant que président du CNEF par l'Observatoire de la laïcité et j'ai eu le malheur de dire que, à mon avis, le problème de beaucoup de ces jeunes qui se radicalisent, c'est que la société n'a rien à leur offrir. Rien. Rien d'intéressant, de fort, pas d'espérance. La seule chose que notre société a à leur offrir, c'est toujours plus de consommation. Souvent, soit ils ne peuvent pas atteindre, soit ils atteignent à travers le deal, le dealant de la drogue. Et j'ai dit, oui, notre société est vide, vide de sens. Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Mais monsieur le pasteur, mais nous avons des valeurs humanistes. Vous ne vous rendez pas compte, mes chers amis. L'humanisme sans Dieu perd toute raison d'être et devient une pensée qui tourne à vide. Et vous savez qu'on peut faire des choses absolument incroyable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gerbe au Mureau? Oui. Jean-Marc Sémoulin, son directeur, a engagé toutes les associations de la ville, toutes, culturelles, de toutes les associations de la ville, à prendre à bras le corps le problème des Mureaux, qui n'est pas vraiment une ville très attrayante, hein, en disant, nous allons remonter le niveau des Mureaux, nous allons lutter contre le chômage, et l'idée qu'il a, c'est de faire des Mureaux un lieu de tourisme. Quand j'ai entendu ça, j'avais envie de rigoler. Hein. Mais il a des idées géniales. Parce que, en fait, il y a tout un travail qui est en train de se faire pour que il y ait du blabla car ou du blabla resto. C'est-à-dire que vous pouvez aller manger chez l'habitant, c'est en train de se mettre en place, avec une appli, vous pouvez aller manger chez l'habitant au Mureau, ce qui permet aux familles d'accueillir, d'avoir un petit revenu, de développer l'accueil. Et Jean-Marc Sémoulin est loin d'être quelqu'un qui a mis son drapeau dans sa poche. Il va régulièrement à la mosquée pour rencontrer l'imam. Il nous a même proposé, parce que j'avais imaginé un camp de jeunes, il a dit « Moi, j'aimerais emmener les jeunes de la fac de Vaud le vendredi à l'heure de la prière. » Parce qu'après tout, qu'est-ce qui nous empêche de prier le Dieu de Jésus-Christ au cœur de la mosquée ? Et alors, il a fait une chose, et là vous allez voir comment l'audace peut payer. L'imam est tellement reconnaissant pour l'amitié de ce chrétien et pour son œuvre sociale qu'il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Or, il a accueilli Saïd Oujibou, notre ami Jean-Marc. Alors Saïd Oujibou, si vous connaissez, c'est pas le plus tendre dans sa façon de faire de l'évangélisation à destination des musulmans. Alors Jean-Marc lui a dit, à l'imam, lui a dit, bah, écoutez, on va accueillir Saïd Oujibou pour une soirée, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et l'imam a dit, chouette, je vais demander aux femmes de la mosquée de faire du couscous pour tous les spectateurs. Eh bien, les gens sont venus écouter l'évangile, ont été nourris par les femmes de la mosquée. Vous y croyez à ça? À mon avis, il y a un champ de possibles que nous n'imaginons pas, peut-être parce que nous n'avons pas encore prié pour ces banlieues. Alors évidemment, hein, je ne vous cache pas que quand je vous dis ça, je tremble un peu. Parce que si je me mets à prier pour les banlieues et vous aussi, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Et si le Seigneur vous demandait d'y aller? C'est risqué. Mais il me semble, mes amis, qu'une pratique lucide de la prière ne peut consister à fermer les yeux sur les drames de ce monde et les besoins de nos contemporains. Il nous faut retrouver, il nous faut sortir de nos murs. Il nous faut retrouver le sens d'un évangile qui se proclame, qui se vit. Et pas qui reste confiné dans les murs confortables de nos communautés. Je voudrais pour terminer vous donner quelques idées pratiques pour encourager une vie de prière lucide dans votre communauté. La première recommandation que j'aimerais vous faire, si vous voulez encourager la prière, faites des temps de prière un moment précieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, soignez la préparation de ces moments. Que ceux qui vous visitent, que ceux qui viennent timidement à la réunion de prière n'aient pas l'impression de tomber dans un moment pas préparé, dans un coin de la salle où il fait sombre, où on a froid, et où, alors que le dimanche, il y a un groupe de musique très encourageant, le vendredi soir, il y a une guitare, elle n'est pas accordée. Vous voyez ce que je veux dire? Soignez la préparation. Et puis diversifiez le style des moments de prière. Franchement, il y a tellement de façons de vivre ces temps de prière. Est-ce que le silence communautaire, des fois, ne pourrait pas faire partie des moments de prière? Est-ce que des moments où, interpellés, nous allions mettre des post-it sur un tableau pour exprimer des choses un peu fortes? Est-ce que la réunion de prière, ça peut être pas un moment, l'éclatement en petits groupes de deux ou trois? Il y a tellement de façons de faire. Et puis faites une part belle au chant. Jérémie nous l'a rappelé. Prier, chanter, c'est aussi prier. Et dans le chant, il y a une façon d'associer l'émotion. Alors tous les chants ne sont pas très propices, hein, honnêtement. Mais de beaux chants permettent d'associer l'émotion et la profondeur des paroles. Deuxième recommandation, mettez d'abord Dieu à l'honneur. Comment ? Eh bien, en faisant place toujours dans toutes vos réunions à une adoration nourrie par la parole de Dieu. Dans la réunion de prière, celui qui compte, ce n'est pas vous, c'est lui. Mettez-le à la place qui lui revient. Et vos moments de prière seront plus forts. Réjouissez-vous aussi avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et vous savez, dans une famille, surtout quand elle est grande, c'est qu'il y en a toujours qui sont en train de se réjouir pendant que d'autres pleurent. C'est la réalité. Il y a ceux qui voient de belles naissances arriver. J'ai cru comprendre que c'était pas très loin pour certains. Il y a ceux qui se marient et c'est une joie. Et puis il y a ceux qui aimeraient bien se marier. Et c'est un poids. Il y a ceux qui ont perdu un être cher. Etc. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et peut-être que, puisque nous sommes une grande famille en communauté, il faut un peu des deux dans les mêmes rencontres. Faites de la place à tous ensuite, aux exubérants et aux timides. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait un canon sur la façon de prier Dieu. Il y a des habitudes. On croit toujours que les nôtres sont plus sanctifiées que celles du voisin. Permettez-moi d'en douter. Ce qui est sanctifié, c'est notre cœur. Et en la matière, je pense qu'on est tous au même tarif, mal sanctifiés. On a des progrès à faire. Faites de la place aux bavards, mais aussi aux taciturnes. Et de temps en temps, il faut dire aux bavards, écoute, laisse un peu de place aux autres. Faites de la place aux joyeux et aux tristes. Faites de la place aux fiancés et aux endeuillés. Que tous puissent se dire, ma place est ici. Tel que je suis, les frères et les sœurs m'accueillent parce que le Seigneur m'accueille. Recommandation suivante. S'il vous plaît, ne transformez pas la réunion de prière en pieux bavardage et en partage interminable. Vous savez, ces réunions où on bavarde 50 minutes et on expédie le temps de prière en 5 minutes. Je pense qu'il faut savoir donner du temps à chaque chose. Si vous voulez que la prière trouve sa place dans vos rencontres, alors il faut créer un espace de vraie liberté. Je pense particulièrement aux réunions de prière en dehors du culte. Il faut faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'est pas nécessaire de tout dire dans une prière. La prière, ça peut être deux mots. Merci Seigneur. Il n'est pas nécessaire de bien parler, parce qu'il y a des complexes. Il faudrait que la personne qui n'est pas de langue française maternelle se sente aussi à l'aise pour dire sa joie ou sa peine dans la prière que ceux qui ont fait de longues études. Le silence, les larmes, le doute ont aussi leur place dans un moment comme celui d'une réunion de prière. Et si le fait de lire un psaume, si pour quelqu'un, prier, c'est, il ne sait pas faire plus que lire un verset ou un psaume, mais laissez-le, c'est une belle chose. S'il a besoin de rédiger sa prière à l'avance, ce n'est pas un crime. Donnez-lui cette liberté. Soyez de toutes les façons sensibles à vos frères et à vos sœurs, à leur timidité, à leur bouleversement. et à leurs illusions aussi. Ne faites pas de la prière un sermon. Ce n'est pas le moment de dire aux autres ce que vous n'arrivez pas à leur dire en face. C'est un mauvais usage de la prière. Mais, ça c'est ce que je vous dis à vous, mais si un autre, parce qu'il ne sait pas comment le dire, a laissé entendre dans sa prière des choses sur elle, sur vous, sur sa situation, qu'elle n'avait pas su verbaliser jusque-là, ça arrive parfois. Demandez au Seigneur, s'il le juge bon, de vous donner l'occasion d'en parler avec cette personne, sans vous précipiter dès que la réunion est finie. Sinon, vous tarirez la liberté. En priant, mettez plus l'accent, en priant et en invitant la prière, mettez plus l'accent sur le Seigneur, sur la bonté du Seigneur, sur son pardon, que sur la prière elle-même. La prière n'est qu'une façon d'entrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas un moyen magique d'obtenir quelque chose de sa part. Nous prions, comme je vous l'ai dit hier, ou plutôt nous sommes appelés à demander ce qui est selon sa volonté et non selon la nôtre. En d'autres termes, l'un des buts de la prière est aussi de nous transformer en nous apprenant à mieux aimer celui qui nous a créés et qui nous a sauvés. Et enfin, n'hésitez pas, le cas échéant, à rappeler et à vous rappeler que la prière et l'action ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Pour cela, soyez concret, en montrant qu'en amour, la spontanéité n'est pas en soi une preuve de sincérité ou d'intensité. Et peut-être qu'une des façons de faire, et là je me tourne vers mamie et les anciens, c'est que quand vous décidez de prier pour Palaiso, alors imaginez comment cette prière peut se transformer en action. Pour que cela ne reste pas simplement une intention pieuse. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire. Avant de conclure, j'aimerais vous laisser la place pour réagir, poser des questions, faire des remarques complémentaires. Je ne prétends pas avoir tout dit. N'hésitez pas, on a un peu de temps devant nous.
Mais évitez les partages interminables.
Qui a une question, une remarque? Peut-être quelque chose de vécu qui pourrait, dans ce domaine, nous édifier tous.
Moi, j'ai une question.
Amaury.
Je parlais tout à l'heure du fait que quand on prie, Dieu nous entend et du coup, on n'est pas. Il y a un côté assez artificiel des fois de toujours prier tout le temps la même chose. Je pense à la parabole du juge unique.
Oui.
C'est pas un petit peu
contradictoire ?
Paradoxal.
Si. Ça l'est ? Ça l'est. Effectivement, tu fais une bonne remarque. Bibliquement, il y a cet ordre du Seigneur de ne pas rabâcher, de ne pas faire comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Et puis, il y a cette parole, effectivement, du juge unique qui invite à persévérer dans la prière. Alors, une remarque, je ne prétends pas que ça répond à tout, mais je me demande si c'est tout à fait sur le même plan. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prie pour mon fils qui n'est pas chrétien, je persévère. C'est-à-dire que ce sujet de prière revient régulièrement. Mais dans ma prière, je ne dis pas 15 fois au Seigneur, convertis mon fils, convertis mon fils, convertis mon fils, convertis mon fils. Et il me semble que le rabâchage que vise le Seigneur, c'est une forme d'incantation qui parfois me semble pointer dans une certaine forme de louange répétitive à l'excès. où on chante 15 fois le même truc. Je me dis, quel est le sens? Donc, il me semble que ça ne se situe pas sur le même plan. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à une question posée, c'est-à-dire un élément de réponse supplémentaire, je ne prétends pas tout savoir. Hein. N'hésitez pas. Autre question?
Moi, j'ai une petite question. On parle souvent du don de prière. Je ne sais pas si ça fait partie de la théologie de la prière, mais il y a certaines églises, par exemple, ou certains membres de l'église, qui, quand ils ont envie que quelqu'un prie pour eux, par exemple, ils disent, ah ben, telle personne, parce qu'elle a ou il a un don de prière. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ça? Est-ce que c'est biblique?
J'ai pas vraiment d'exemple dans l'écriture, non. Après, sur le plan de l'expérience, je dois reconnaître qu'il y a des personnes qui ont une capacité, par exemple l'intercession dans l'église de Massy où nous étions jusque-là, nous avons une sœur, quand elle invite l'église à intercéder, elle a vraiment quelque chose, elle sait le faire, et j'ai l'impression que ça correspond à un souci qui lui est propre. On sait aussi qu'entre nous, il y a des personnes qui sont plus portées à des temps longs avec le Seigneur. Peut-être parce qu'elles en ont le tempérament, le temps. Et je ne négligerai pas cet aspect-là. Ce sur quoi j'aimerais avertir, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne une forme de religion par procuration. Je ne prie plus parce qu'il y a quelqu'un qui sait prier. Et ça, c'est la tentation, par exemple, pour vous, les anciens, de ceux qui s'approchent de vous, parce que pastoralement, ça m'est arrivé, hein, des gens qui vous disent « Ah, monsieur le pasteur, priez pour moi parce que je sais que Dieu vous entend. » C'est faux. Dieu m'entend certes, mais entend aussi cette personne. Et il m'est arrivé de refuser de dire à une personne « Non, je ne vais pas prier pour vous » et de provoquer évidemment une sorte de stop un peu brutal. Mais immédiatement, j'ajoute « Non, je vais prier avec vous. » Parce que je suis un frère. Et c'est à vous que je dois faire cette recommandation. Je suis un frère, je suis à côté de toi, nous prions ensemble le Créateur. Voilà. Oui, Nyarinso.
Alors, tu parlais tout à l'heure de prier tout en gardant les yeux ouverts sur le monde.
Oui.
Mais c'est vrai que des fois, les besoins, il y a tellement de besoins, et des fois, on se sent un peu écrasé.
Oui.
On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans tout ça?
C'est, je pense, un des rôles des responsables de la communauté, de trier dans tout ce qui arrive. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, quand j'étais pasteur, je recevais une foule d'informations. Et j'avais tendance un peu paresseusement à tout mettre sur la table dédiée à ça. Et au fond, ça n'a fait qu'empirer avec Internet. Hein. Nous sommes assommés d'informations et trop d'informations tuent l'information. Il est évident que nous ne pouvons pas tout, mais entre ce sentiment d'écrasement et le fait de choisir certaines choses, en nous disant bah, « je ne peux pas tout, mais j'ai à cœur l'Église persécutée, j'ai à cœur la mission dans tel pays, peut-être parce que parmi vous, il y a des ressortissants de ce pays, et du coup vous êtes naturellement attachés. » Je crois que voilà. Et dans la communauté, on peut profiter ainsi de l'interpellation mutuelle. Les uns nous encourageant à ne pas oublier l'Église persécutée parce que c'est là qu'ils ont leur cœur. D'autres à telle ou telle situation. Voilà. Mais là, il y a peut-être un petit travail dans la prière, de choix, de demander au Seigneur, mais écoute, Seigneur, je ne peux pas tout, mais est-ce que Il n'y a pas quelque chose que je pourrais garder sur mon cœur et accompagner.
J'aurais juste un exemple par rapport à ça. Il y a dans Londres City, il y a une église qui a été construite dans les années 60, en plein centre-ville de Londres. Et ensuite, se sont construits autour des gratte-ciels, et donc toute la London City, avec tous les hommes d'affaires qui sont venus sur cette city. Et cette église, composée de chrétiens qui gagnent tous 50 000, 60 000 euros par mois, ils se sont dit, mais comment on peut servir le Seigneur là où nous sommes? Et en fait, ils ont créé donc tout un... ils ont eu à cœur les hommes d'affaires de la city. Et tous les midis, ils prévoient un repas en 45 minutes, le temps que la bourse se ferme et qu'elle se réouvre. Et ils annoncent l'évangile pendant 45 minutes, pendant que tout le monde mange. Et ils sont concentrés sur cette mission-là, et ils font que ça. Et je pense que voilà, chaque église a aussi des terrains de mission autour d'elle, etc. Et c'est un exemple.
Oui, Martine.
Je pense à une amie, c'est un exemple hein, parmi d'autres, qui a à cœur aussi l'intercession pour d'autres. Bon, c'est à titre individuel, pas du coup communautaire. Elle a un énorme album photo individuel. Et à chaque fois qu'il y a un sujet de prière qui lui vient, elle met une photo ou un mot concernant la personne, la situation. Elle a porté les yeux toute la journée dans l'entrée et elle tourne la page. Elle a prié, elle voit la photo, elle prie, voilà, comme ça, elle est en contact avec Dieu, voilà. Et puis dès qu'elle a pensé, pouf, elle tourne la page. Et puis voilà, quand elle a le temps, pouf, elle tourne au fur et à mesure. Donc c'est sûr, plus ça s'épaissit, plus les pages tombent moins souvent dessus. Mais au moins, elle a cette régularité de penser régulièrement à une situation. Et je trouvais l'idée sympathique.
Très bien. Qui est-ce qui avait... Oui, Florent.
C'est écrit que il y a le Saint-Esprit, il nous inspire dans nos prières.
Ouais.
C'est-à-dire que les prières qui sont un peu plus compliquées à dire en public, elles sont... sont moins aspirés. Ou c'est simplement alors, une histoire de...
Ce à quoi tu fais référence, sauf erreur de ma part, c'est dans Romains 8, au fait que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse quand nous ne savons pas quoi demander dans la prière. Et il soupire. Il est question des soupirs du Saint-Esprit. Henri Blocher parle de la surprière de l'Esprit. Mon sentiment, c'est que le fait de ne pas savoir quoi demander dans la prière est une expérience assez commune. Et plus d'ailleurs nous nous trouvons devant une situation dramatique, plus j'ai l'impression que les mots nous manquent. Que demander quand quelqu'un est à l'agonie? Pas toujours simple. La guérison, bien sûr, mais quoi d'autre? Et là, il y a cette formidable assurance. Je peux même me tenir devant Dieu et lui dire, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Parce que le Saint-Esprit est là. J'ai fait l'expérience parce que malheureusement, je suis touché par un problème de dépression chronique. J'ai fait l'expérience que dans les moments les plus difficiles, je ne sais plus quoi dire au Seigneur. Ma seule prière, c'est de dire au Seigneur, help, enfin je dis aide-moi plutôt. Et se résume à très peu de choses, et c'est tellement bon de savoir que même ça, le Seigneur le couvre de son esprit, et en fait son affaire en quelque sorte.
Encore peut-être, j'ai une question.
Alors, le frère qui n'a pas encore parlé.
Je pense moi aussi prier pour dans une église les actions événementielles. Parce qu'il faut bien vivre, on est une seule église protestante. On doit faire venir quand même des gens parce qu'on a notre rôle d'évangélisation. Voilà. Et donc prier justement avec les anciens, hein, ou même nous, les membres, donner des idées justement aux pasteurs, aux anciens, pour créer justement des choses événementielles. Faire vivre une vie d'église et ces actions-là, c'est très important. Donc, voilà.
Ouais. Puis on pourra ajouter que vous pouvez simplement, puisque nous croyons la souveraineté de Dieu, il y a peut-être des liens inattendues qui se forment à cause des personnes qui visitent l'église, qui naturellement vous guident. Je vous donne une idée. J'ai l'impression que le fait que Mamie Nyarinsu soit arrivée, ça vous lie à Madagascar. Eux ont à cœur Madagascar et vous les laissez aller à Madagascar chaque année. Mais ne les laissez pas simplement aller, accompagnez-les de vos prières. Puisque le monde entier, on ne peut pas s'en occuper, peut-être que là, très naturellement, il y a une façon d'être... de venir en aide à des frères, à des sœurs, ailleurs. Et je crois beaucoup qu'il nous faut apprendre la vraie générosité. Je m'explique. Très souvent dans l'Église, nous ne donnons et nous n'agissons que pour des choses qui nous reviennent. En missiologie, il a été démontré de façon assez claire que 95% des offrandes des églises en moyenne sont des choses en fait qui participent à leur confort ou à leur fonctionnement, mais qu'il y a très peu de dons généreux. Quand vous donnez à votre union, c'est parce que vous espérez un service en retour. Quand vous donnez pour une mission à l'autre bout de la terre, dont vous ne verrez probablement jamais les fruits, il me semble que là, vous commencez à être généreux simplement. Je termine en vous montrant un extrait d'un livre de Bill Hybels, trop occupé pour ne pas prier, qui dit ceci. Si la demande est déplacée, Dieu dit non. Si ce n'est pas le bon moment, Dieu dit pas encore. Si vous vous trompez, Dieu dit, il faut grandir. Mais si la demande est bonne, que le moment est opportun et que vous êtes dans le vrai, Dieu dit, va. Et il me semble que c'est un résumé assez juste. Je vous invite à la prière. Que ta grâce qui nous a touchés, qui nous a attirés à toi, qui nous a pardonnés, que cette grâce nous porte, Seigneur, pour que nous sachions te parler, te confier nos joies et nos peines, à la fois chacun individuellement et ensemble. Que nous t'honorions par la place que nous te faisons, par l'honneur que nous te rendons. Accompagne la communauté de Palaiseau, les diacres et les anciens, Mamie, que la vie de prière de la communauté puisse être enrichie et que chacun puisse être fortifié par les progrès dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Étienne.